Le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 mai 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Et nous sommes toujours à Paris Expo, Porte de Versailles, Hall 6, pour vous faire vivre en direct la 28e édition du Salon AMIF 2024. On vous le fait vivre en live grâce aux invités qui viennent nous rejoindre ici autour de ce plateau. Et je suis ravi d'accueillir Yann Dubosc. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Bussy-Saint-Georges, en Seine-et-Marne.
Oui.
Merci d'être présent. Vous êtes également conseiller départemental du canton de Torcy.
Oui.
Vice-président délégué au développement économique de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Président du conseil d'administration d'EPA Marne et président aménagement 77.
Tout à fait.
Et en charge du logement également à la MIF.
À la MIF, exactement.
Un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Première question, tiens, tout simplement, comme vous êtes maire, quel est l'intérêt très concrètement pour vous d'être présent ici sur ce salon ?
Alors, c'est à la fois un sentiment de fidélité et d'amitié avec les différents présidents de la MIF, mais c'est surtout une occasion de rencontrer tout le monde dans un seul et même lieu et concentré dans le temps. Et on sait très bien que la plupart du temps, on court après le temps. Et donc là, ça me permet de rencontrer mes collègues, de rencontrer les partenaires qui sont tous présents dans ce salon. Donc voilà, c'est pour moi une occasion de rencontrer tout le monde en même temps et puis de pouvoir expliquer ce que l'on est. Et aujourd'hui, on a besoin de pédagogie, effectivement, sur le rôle des élus, mais également de rencontrer aussi des partenaires futurs. Là, j'ai rencontré beaucoup de gens dans le domaine de l'intelligence artificielle et autres, de la mécanisation un petit peu, je dirais, des procédures. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc je viens aussi faire mes courses au Salon de la MIF. Mmh.
Sylvain Lévy-Valency est évidemment avec nous. Bonjour Sylvain.
Je ne pouvais pas rater ça.
Ah bah évidemment. Voilà. Pourquoi moi, d'ailleurs
écoutez, j'ai un rendez-vous annuel qui est sanctuarisé, très à la mode de dire le mot, avec Yann Dubosc, chaque année. Voilà. Donc là, je viens de traverser la France dans les deux sens pour venir le rejoindre ici à la MIF. Non, je plaisante. J'aime beaucoup Yann Dubosc parce que vous avez la particularité, mon cher Yann, et vous le savez, c'est d'avoir finalement, comme dirait Audiard, l'air et la chanson. C'est-à-dire que vous ne vous contentez pas politiquement de dire les choses, vous avez une maîtrise totale. Et pour le logement et la construction, et donc les flux démographiques sur lesquels il y a une vraie désespérance, puisqu'il y a une vraie crise de logement dans notre pays, vous êtes certainement l'un des interlocuteurs majeurs dans un territoire qui est un territoire contraint, qui n'est pas facile du tout à travailler. Mmh. Et vous présidez surtout un établissement public d'aménagement,
oui,
qui est l'un, ou sinon le plus grand, avec le plus grand projet d'aménagement, je crois, même en France.
Donc, tout à fait.
S'il y en a un qui est au courant, c'est bien vous. Justement, on va peut-être enchaîner sur cette question, faire un peu de politique. Après tout, on est aussi un peu là pour ça. Vous le savez, Guillaume Kasbarian a déroulé sa feuille de route.
Oui.
Et nous avons un projet de loi qui est à l'écoute. On a interviewé pas mal de vos collègues qui disent que finalement, on ne peut pas réellement être contre. Hein. C'est vrai qu'on prend les éléments de cette loi, on peut que pour être pour, notamment raccourcissement ou dureté sur les recours, par exemple, sur le permis multisite, entre autres. Mais tous partagent la même impression de finalement, ça aurait pu être que le coup de pied aurait pu être plus fort, que le geste aurait pu être plus fort. Quel est votre avis sur cette loi qui certainement sera adoptée ?
Alors moi je pense qu'il faut, il faut un geste, et c'est toujours bien d'avoir quelque chose que de rien du tout. Et c'est vrai qu'on pourrait toujours regretter de ne pas aller plus loin et plus fort sur un certain nombre de choses, mais moi j'ai eu la chance de recevoir le ministre à Bussy au moment où il annonçait donc le passage de du projet de loi en Conseil des ministres. Moi j'ai trouvé un interlocuteur à l'écoute des problématiques. Il devait rester 1h30, il est resté 2h. Il a rencontré des habitants et on est même allé chez l'habitant, que ce n'était pas du tout prévu, justement pour rencontrer des personnes. Et ce qui l'intéressait, je dirais, là-bas, c'est de pouvoir présenter les points forts de son projet de loi en rencontrant des collectivités qui arrivaient à faire de la mixité d'usage, notamment sur le logement, c'est-à-dire d'avoir dans un même projet, par exemple, de l'acquisition, du social et surtout du LLI. Et c'est vrai qu'effectivement, il était assez étonné de la production de LLI à Bussy et il voulait connaître la raison pour laquelle effectivement on se lançait dans le dispositif. Donc moi je suis assez favorable et j'encourage tout ce qui peut être positif pour la construction de logements et pour le développement de l'urbain, en sachant qu'effectivement ce ne sera pas facile, il y aura des résistances, hein, et notamment sur le logement social, mais pas que. Mais je dirais qu'au moins on a un ministre qui bouge, qui fait quelque chose, et c'est toujours mieux à prendre que rien du tout.
Et au niveau de Bussy-Saint-Georges, vous arrivez, vous continuez à bâtir. On va parler de maire bâtisseur, je sais qu'il paraît que c'est un gros mot.
Alors non, moi je le prends plutôt bien, parce que bâtir des logements, c'est aussi accueillir des populations, c'est offrir du logement et offrir un bon environnement dans une collectivité. Oui, il faut construire du logement. Je suis opération d'intérêt national, donc je pourrais tout à fait dire aussi que je n'ai pas le choix. On pourrait me forcer à le faire, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc je préfère accompagner ce mouvement-là.
Bien sûr.
Dans la contractualisation avec l'État, on a à peu près sur Bussy 550 logements à réaliser. Et pour vous donner simplement un ordre d'idée, Bussy, il y a 40 ans, c'était 500 habitants. C'est 30 000 aujourd'hui et ce sera plus de 50 000.
Ans, il y avait 500 habitants.
Exactement.
C'était hier.
Et donc, ça a permis effectivement d'accueillir des populations, ça a permis de construire des équipements. Alors là, on a bénéficié du dynamisme de Disney, parce qu'il n'y aurait pas eu l'installation de Disney, on ne serait peut-être pas en train de parler aujourd'hui. Mais en tout cas, Disney a créé cette dynamique-là, a créé les axes de communication avec la A4, le RER, le TGV. Et finalement, on s'est dit, il faut accompagner ce développement-là. Sauf que moi, j'ai donné, en prenant la présidence d'Epamarne il y a 9 ans maintenant, pour ma ville et pour Marne-la-Vallée en général, c'est de dire, on ne peut pas faire que du logement. Ensuite, s'intéresser aux équipements publics et quand on a le temps de faire du développement économique. Moi, j'ai souhaité qu'on fasse les trois en même temps. Et donc, ça permet vraiment à nos communes, je dirais, d'être accueillies dans de bonnes conditions, de pouvoir trouver un travail sur Marne-la-Vallée, de pouvoir se développer et surtout de conserver un cadre de vie. Les gens sont très fortement attachés à ça, au cadre de vie. Et c'est une raison pour laquelle souvent, ils font des recours sur les permis de construire, c'est qu'on dégrade le cadre de vie. À Bussy, on l'enrichit tout en faisant effectivement l'urbanisation et en densifiant nos zones urbaines.
Si vous le permettez, Yann, je peux me permettre, je vais demander à un maire de nous rejoindre sur le plateau et sur la région. Je vais demander à Roland Cranoli de venir s'installer. Je vais demander à Théo. On a Roland Cranoli, le maire de Gagny, qui est avec nous. Voilà, vous pouvez rapprocher le micro, Roland. Et justement, voilà, c'est l'avantage de la radio. Donc je le dis à l'ingé son, Roland Cranoli qu'on avait prévu, et je profite de la présence justement de Yann Dubos, vous connaissez certainement, bien évidemment.
C'est des mêmes instances à la MIF, on s'est rencontré. Bonjour, cher collègue.
Bienvenue, monsieur le maire.
Voilà. Merci.
J'ai posé cette question et je voudrais qu'on revoie là-dessus. Guillaume Casbarion a déroulé sa feuille de route et présenté la loi en Conseil des ministres. J'ai posé la première question au maire de Bussy-Saint-Georges, Yann Dubos, qui est avec nous. On ne peut pas être contre cette loi, puisque quand on la lit, on se dit, c'est plutôt pétri de bon sens. Mais tous vos collègues maires disent, on aurait pu faire mieux, ça aurait pu être beaucoup plus punchy. Déjà une première réaction sur justement ce projet de loi logement qui apparemment sera a priori adopté bientôt.
Ma première réaction, tout d'abord, bonjour à vous tous. Ma première réaction là-dessus, lorsque j'entends mes collègues dire que cela peut être plus punchy, je ne peux qu'être d'accord avec cela. Et pour être plus punchy, il faut être plus clair. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de lancer de grandes idées sans pour autant donner au moins des indications sur l'application de ces idées. J'estime que le mandat que nous avons, le mandat de maire, n'est pas un mandat facile. C'est le mandat le plus glorieux, mais ce n'est pas forcément le plus facile. Lorsque vous regardez la libre administration des collectivités territoriales, vous avez une véritable contradiction avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Vous avez un gouvernement qui décide de choses, mais ces choses sont décidées sans véritable concertation avec les personnes qui seront chargées par la loi de les mettre en application. Et cela, pour moi, c'est véritablement une contradiction qui devient de plus en plus insupportable.
Est-ce que ça confirme, Roland, Yann, la tendance jacobine d'un État centralisateur qui finalement, quelque part, ne vous consulte pas sur des sujets sur lesquels vous êtes... Parce que ce que vous venez de nous dire, c'est exactement ce qu'ont dit tous vos collègues maires. À un moment donné, une réaction là-dessus, Yann.
Mais complètement d'accord. C'est vrai que, je dirais, les décisions brutales nous apparaissent, que ce soit en matière de ressources humaines, quand on nous annonce effectivement des points d'indice en plus sans aucune concertation, quand on nous annonce un certain nombre de décisions, quand on nous supprime la taxe d'habitation, quand... Bref, on a plein d'éléments qui nous arrive sans aucune concertation et je dirais même quelquefois un ressenti de mépris par rapport au maire que nous sommes.
Alors je n'osais pas le dire, mais c'est bien que vous le disiez parce que c'est l'impression qu'on...
Et je pense que pendant très très longtemps, même si effectivement en fonction des personnalités qu'on peut avoir en face de nous, il y a des attitudes qui changent, mais c'est vrai qu'on n'a pas considéré les maires pendant les périodes, je dirais, de crise, pendant les gilets jaunes, pendant la Covid. Mais si nous n'avions pas été là, dans quel état serait le pays? Moi, je me souviens quand le préfet de l'époque me disait « il faut organiser les grands débats, il faudra organiser ». Mais je lui dis « mais si vous aviez besoin de connaître l'état sanitaire, social, économique de nos populations, il y avait une seule chose à faire, nous demander ». Et on vous aurait donné ces éléments-là.
Absolument.
Et le fait, effectivement, de dire bah, « maintenant, moi j'ai créé la crise, mais vous allez en prendre une partie à votre charge », c'est trop facile. Et derrière, effectivement, on n'a pris que des coups. Et aujourd'hui, nos populations, je crois qu'il y avait des sondages qui confirment effectivement ce que je voulais dire, c'est-à-dire que le maire était la personnalité préférée des Français.
Très juste.
Là-dessus, on devait être à 60-70% d'opinion favorable. Je pense qu'aujourd'hui, on est à 50. Et quand on regarde les statistiques, où il y a eu 13 000 démissions d'élus, pas que de maire,
mais
13 000 démissions d'élus. C'est-à-dire qu'en 4 ans, c'est plus que le mandat entier
Absolument.
Précédent. Donc je pense qu'il faut s'interroger effectivement là-dessus. On a des tutelles qui sont complexes. Moi, je suis allé au Sénat pour parler du rapport du couple préfet et maire. Moi, je suis désolé, effectivement, c'est qu'il y a tellement de contingences dans le couple préfet-maire qu'à un moment donné, effectivement, laissez-nous une certaine forme de liberté. Mon collègue Roland disait effectivement qu'il fallait respecter la libre administration des collectivités. Aujourd'hui, c'est un principe constitutionnel. Je ne sais pas où il se trouve, notamment quand on nous impose des décisions de ce principe-là.
Le territoire dans lequel vous êtes, parce que c'est intéressant, vos territoires à tous les deux. Vous êtes en Seine-Saint-Denis, vous êtes en Seine-et-Marne, et vous êtes sur à la tête de l'EPAMARNE sur un grand projet d'aménagement qui est certainement l'un des plus grands projets. Et finalement, vous vous rejoignez. Même si la réalité de vos territoires est très spécifique. On est sur Gagny, sur un territoire très dense, sur lequel il n'y a quasiment plus de foncier possible, sur une population, effectivement, qui est aujourd'hui, on raisonne beaucoup en termes de mixité sociale et de mixité d'usage, des défis auxquels vous faites face. Vous avez fait allusion au fait que les maires ont jeté l'éponge. Quand on est à la tête de Gagny, justement, une ville qui est particulière, qui est singulière, comment vous réagissez, vous, justement, face à ces jeunes maires qui ont... Parce que sur les 13 000, il y a une majorité de maires qui avaient gagné les élections en 2020. Et donc, ils se sont rendus compte, en fait, ça a été à la fois désespérant et, en fait, on s'est rendu compte que le job, il n'était pas si facile que ça.
Ben, moi, ce que je pourrais dire et ce qui pourrait rassurer la population gabinienne, c'est que je ne suis pas prêt de lâcher. Je ne suis pas prêt de lâcher.
Ça,
cela me donne encore plus envie de me battre parce que je crois en ce modèle. Je crois dans ce rôle d'hyper-proximité du maire à l'écoute des besoins de sa population, à l'écoute de l'ensemble des contraintes qui sont les nôtres pour pouvoir mener à bien l'avancée, le développement positif de nos collectivités. Vous parliez de la densification sur la ville de Gagny. J'ai eu l'occasion, vis-à-vis du préfet de mon département, de lui réaffirmer ma volonté politique basée sur le souhait de la population de ne pas densifier à outrance. Parce que derrière la logique de mixité sociale, la logique de construction de logements, il faut avoir véritablement une logique de peuplement. C'est un mot qui a été très longtemps banni du discours des politiques, mais ce n'est pas un gros mot. Avoir une logique de peuplement, cela permet vraiment de planifier l'évolution de sa ville. Aujourd'hui, j'ai hérité d'une ville sur laquelle 80% du centre-ville sont des logements sociaux.
Mais 80% du centre-ville.
Le cœur de ville est constitué de 80% de logements sociaux. Lorsque vous regardez cela, les difficultés que j'ai, c'est à faire tenir des commerces de pied d'immeuble à ces endroits-là. Donc, s'il n'y a pas véritablement un équilibre là-dessus, je risque de voir se dégrader la situation. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de rattraper cela. Et je ne suis pas contre les logements sociaux, loin de là.
Mais
pour autant, il y a aussi d'autres modèles qui existent, qui rentrent dans le quota SRU, qui sont extrêmement intéressants à investiguer, qui sont les baux réels et solidaires.
Absolument.
Qui permettent...
Le premier point de la loi... Non, mais merci Roland, parce que vous m'avez fait faire cette transition. Intégration des logements intermédiaires dans la loi SRU. Le projet propose d'assouplir les quotas SRU pour permettre aux communes de compter certains logements intermédiaires destinés à 12 nouvelles classes sociales, pour le dire, notamment les classes moyennes, dans leurs obligations de logements sociaux. Vous pouvez que saluer cette démarche.
Moi, je ne peux que saluer cela. Je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Et ça rentre, encore une fois, dans le développement de l'explication que je vous donnais sur la logique de peuplement. Lorsque vous avez un habitant, un propriétaire résident dans un immeuble. Son regard sur son immeuble et sur son quartier n'est pas du tout le même. Lorsque vous avez un propriétaire qui achète juste pour un investissement qui met en location et qui ne regarde plus la copropriété, qui ne regarde plus l'évolution du cadre de vie autour de son logement, on n'est plus du tout dans la même situation non plus. Lorsque vous avez des personnes qui sont uniquement locataires, qui ne prêtent attention qu'à leur espace intime et privé, et pas aux parties communes ni à l'environnement proche, ben vous n'avez pas du tout les mêmes types d'évolution, le même type de cadre de vie.
Alors, il faut aussi faire attention à ce qu'on appelle le parcours résidentiel. C'est-à-dire que...
Parcours résidentiel qui est plutôt en panne en ce moment.
Qui est en panne parce qu'effectivement, on ne s'est pas forcément donné les moyens de pouvoir développer des produits d'accès. Tu parlais du BRS, effectivement, c'est une des formes effectivement intéressantes de pouvoir effectivement avoir un accès à la propriété. Quand le ministre est venu, je te disais ça tout à l'heure, est venu effectivement, il s'intéressait au LLI. Pendant un certain temps, le LLI, tant qu'il y avait une exonération de la taxe foncière, on était tous foncièrement contre. Aujourd'hui, ça a été levé, c'est plutôt une bonne chose. Et on s'aperçoit que dans le développement des projets, si tu n'as pas 40% de LLI, le projet ne démarre pas.
Exactement.
S'il n'y a pas de vente en bloc, il ne démarre pas. Moi, je produis 550 logements par an de plus. Et Marne-la-Vallée, 2500 par an. Donc imagine effectivement dans un système qui est bloqué, si tu n'as pas 40 voire 50% de ventes bloquées, tu n'as pas de prêt bancaire pour le promoteur et tu ne démarres pas le projet. Et on s'est dit, voilà, ce phénomène-là, qu'est-ce qu'on en tire comme conséquence, comment on peut le mettre dans un élément stratégique. Et bien, on l'a mis justement dans le parcours résidentiel. Le LLI, ça permet à des gens qui sont un tout petit peu au-dessus, je dirais, du logement social, mais très en dessous, je dirais, de l'acquisition foncière. Moi, aujourd'hui, on est à près de 5 000 euros le mètre carré sur Bussy-Saint-Georges. Autant te dire, effectivement, que...
5 000 euros du mètre carré.
Oui, un primo-accédant, il va avoir quand même quelques difficultés aujourd'hui
à
pouvoir le faire. Donc, le LLI est important dans nos stratégies de développement. Et quand on dit qu'on va le faire rentrer dans le quota SRU, il y a un mais qui est quand même de nature à nous interroger là-dessus, c'est qu'il ne rentrera pas en stock, mais en flux. Donc, c'est-à-dire que si tu ne produis pas constamment du LLI...
Ah oui, je comprends.
Ton quota de LLI dans la loi SRU, effectivement, il ne sera pas pris en compte. Donc voilà, c'est plutôt un bon phénomène, on l'a tous pris comme tel, mais pour l'instant, moi j'attends une clarification, comme tu disais Roland, est-ce que ça sera bien du stock ou du flux? Donc moi j'attends effectivement la confirmation de cela.
Et Jean-Baptiste? Oui, alors moi je voudrais revenir également aussi sur ce salon. Vous savez qu'il y a chaque année un thème central autour du salon. Là en l'occurrence c'est l'environnement, c'est le changement de climat. Et ce qui est intéressant aussi quand on reçoit des maires justement, c'est de voir à quel point ils sont engagés aussi sur ces questions-là et citer des exemples concrets sur lesquels vous intervenez justement, et qui nous prouve qu'il y a une vraie prise en considération de cet état de fait, quoi, du changement de climat. Et Yann Dubosc, que je voulais notamment parler avec vous de l'hub hydrogène que vous allez déployer.
Oui. Alors, on a beaucoup réfléchi, comme beaucoup de mes collègues, effectivement, sur les moyens de décarbonation, notamment des mobilités lourdes. Parce que moi, je suis à proximité de l'autoroute A4, avec 100 000 véhicules jour qui passent, dont 6 000 camions. Et on s'est dit, voilà, comment on peut participer à l'échelle départementale de la réflexion sur les énergies de demain. Et une énergie de demain qui ne faisait pas partie de notre arc, c'est l'hydrogène. Donc j'ai EDF qui est venu me voir en me disant, voilà, on souhaiterait pouvoir développer sur votre territoire un projet de production d'hydrogène vert. J'en avais entendu parler, mais sans plus, quoi. Donc il a fallu que j'apprenne le langage industriel, que je m'initie un petit peu à cela. Et très rapidement, je me dis, je ne vais pas le faire seul. Je vais mettre plusieurs collectivités dans le projet. Donc il y a la ville de Bussy, il y a l'agglo, il y a le département, il y a l'EPAMARNE, bien sûr, l'aménageur public, mais également le syndicat des énergies nouvelles, le SDESM de Seine-et-Marne, et puis la CCI. Et en fait, ces 6 partenaires se sont mis autour de la table. Et en moins d'un an, on a rédigé l'AMI, on a auditionné les industriels, et on a sélectionné un industriel qui s'appelle Life, qui est aujourd'hui le premier producteur européen d'hydrogène vert. Et on leur a donné, effectivement, je dirais, quelques mois, quelques années pour pouvoir développer dans une zone d'activité de 800 000 m² le long de l'autoroute A4. Ils vont être les premiers installés à dire, voilà, on veut développer la décarbonation des mobilités lourdes. On veut être dans un projet innovant qui, aujourd'hui, n'existe pas. Je dirais, l'hydrogène est
assez balbutiement. Ils vont fabriquer de l'hydrogène.
Ils vont donc stocker de l'hydrogène. On va faire venir un électrolyseur qui va produire, qui va stocker, qui va distribuer. Et le troisième pilier que j'ai mis dans l'AMI, c'est la formation. C'est-à-dire que je voudrais, moi, qu'on développe aussi localement Alors avec les ponts et chaussées qui sont installés à Marne-et-Vallée, avec l'université Gustave Eiffel qui est spécialisée dans le développement durable, de pouvoir aussi créer la filière de production, c'est-à-dire depuis la production de véhicules d'hydrogène avec leur entretien, les électrolyseurs, mais également, je dirais, toute l'ingénierie et l'IA qui va aller avec. Donc on est en train de faire un hub, c'est plus que de la production, c'est vraiment un hub global et qui va permettre
tout
un territoire.
Il n'y a pas l'équivalent en Ile-de-France.
Actuellement, il n'y en a pas. Ouais. Il y a pas.
En région Auvergne-Rhône-Alpes,
c'est ça ? Alors, la région Auvergne-Rhône-Alpes est encore plus avancée que nous, puisqu'effectivement, ils en sont même aujourd'hui à commander à Alstom, avec plusieurs régions, des trains qui vont circuler. Mais nous, on a un contact avec ADP, on a un contact avec, je dirais, les Voies Navigables de France, pour pouvoir aussi, notamment sur les berges de la Marne, faire circuler aussi des bateaux, je dirais, à hydrogène. Et puis le nouveau carburant pour avions qui est en train d'être développé par les constructeurs. On veut également être de la partie. Donc moi, je vais produire à peu près 10 tonnes jour d'hydrogène vert garanti, hein, labellisé. Et donc, ils alimenteront aussi l'industrie, comme Air Liquide, Messer, etc.
Mais ça peut aussi alimenter l'automobile.
C'est surtout l'automobile dans un premier temps. Et puis demain, ça peut être les logements, les équipements publics, etc.
Superbe initiative.
On est dans le début d'une aventure. En
tout cas. OK. Et on continuera à en parler pour suivre l'évolution, parce que c'est vraiment innovant. De Bussy-Saint-Georges, donc, on passe à Gagny. Là aussi, monsieur le maire, qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous faites pour prendre en considération, effectivement, le changement de climat?
Dès le début du mandat, j'ai démarré sur un projet phare. C'est le projet phare de mon mandat. C'est la préservation de 14 hectares de carrières de l'Ouest.
Extraordinaire.
Sur Gagny, sur lesquels était prévue la construction de 1750 logements. Dès que je suis arrivé aux fonctions, j'ai stoppé d'une façon assez brutale. Je l'admets.
Non, mais je me rappelle à l'époque.
Et je l'assume.
Roland Tranoli s'est fait beaucoup d'amis dans le monde.
Et ça, c'est plutôt je me rappelle. Je veux faire des ennemis comme ça, c'est toujours intéressant.
Donc, je l'ai assumé pleinement. Aujourd'hui, ces 14 hectares de carrière sont sécurisés. Et là, nous allons lancer un projet de préservation des deux tiers des 14 hectares pour faire un réservoir de biodiversité. Parce que nous avons la chance sur la ville de Gagny d'avoir des espèces, tant sur la faune que sur la flore, des espèces extrêmement rares qui ont été identifiées par des écologues. Donc nous allons faire un réservoir de biodiversité. Et sur le tiers restant, nous allons faire un parc nature pédagogique à destination des habitants pour les accompagner à comprendre l'histoire du site et les essences qui y sont. Autre projet phare que nous portons aujourd'hui pour la ville de Gagny, c'est la création d'un puits de géothermie. En grande profondeur pour pouvoir desservir l'ensemble des équipements publics de la ville et à terme desservir également les particuliers. La crise énergétique que nous avons traversée nous a forcément amené à tirer des enseignements de tout cela et l'idée d'emmener avec moi la population à rentrer dans une logique de préservation des ressources naturelles, c'est véritablement des enjeux d'avenir.
Et ils sont réceptifs.
Ils sont extrêmement réceptifs. Vous savez, lorsque le territoire Grand Paris Grand Est a lancé l'élaboration de son PLUI, la ville de Gagny, qui est une des seules villes d'Île-de-France à être soumise au règlement national d'urbanisme, n'avait pas de PLU à proposer dans le cadre du récollement. Donc nous avons proposé de lancer une étude sur le bioclimatisme urbain en associant la population pour décider avec elle et pour elle l'évolution de la ville de Gagny sur les 10-15 prochaines années. Cela a véritablement fonctionné. La population a été extrêmement sensible à la démarche et ce qui nous permet aujourd'hui de décliner tous les plans d'action que nous avions identifiés lors de cela. Au-delà des grands projets, je suis un homme simple et je pense que la population a aussi besoin des choses extrêmement simples. Au-delà des grands projets tels que les carrières de l'Ouest, tels que la géothermie et autres, il y a des points extrêmement simples que nous avons mis en place avec une explication extrêmement claire à destination de la population. Aujourd'hui, dans tous les permis de construire qui sont délivrés sur la ville de Gagny, vous avez dans l'arrêté d'autorisation un point très spécifique demandant de faire un inventaire sur la parcelle concernée pour voir s'il y a de la petite faune sauvage à préserver, à mettre à l'abri avant le démarrage du chantier. Cela peut paraître complètement anodin, mais cela nous permet, grâce aux associations de défense de la cause animale que nous avons dans notre bassin de vie et sur la ville de Gagny, de sauver des hérissons, de sauver des petits mammifères qui sont sur ces parcelles-là, mais cela contribue également à la préservation de la biodiversité. De la même façon, j'ai éduqué ou rééduqué mes services d'espace vert sur la prise en compte des périodes de nidification et de la faune présente dans, dans les arbres pour pouvoir avoir une planification de l'élagage tout en préservant ces petits mammifères.
Un grand merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. C'était un vrai plaisir que de vous recevoir et de faire le point justement sur ce qui est mis en place dans vos communes respectives.
C'est très important parce que je voudrais juste ajouter, avant que vous repartiez, je peux avoir deux minutes.
Rapidement, je crois on
deux minutes, on voilà, dit que deux c'est... Ouais. Deux minutes, juste pour rappeler. Vous êtes l'illustration, messieurs, de ce que sont les maires aujourd'hui. C'est-à-dire ils ne sont pas dépourvus d'idéaux. Bien au contraire. Et d'ailleurs, je pense que le retrouver ou restaurer l'idée d'un idéal qui fait socle, qui fait communauté, c'est pas simple. Stéphane Baudet, le président de la MIF, dit finalement, je suis un maire qui gère une somme d'égoïsme. Il a raison. Aujourd'hui, on dérive vers un farouche individualisme, peut-être par vos actions. Alors, sans faire de candeur ni de sensiblerie, c'est de dire que finalement, vos actions, aujourd'hui, sont à la portée de compréhension de vos administrés. C'est la raison pour laquelle le pouvoir qui se jacobinise devrait bien, à mon avis, retrouver le lien qu'il a avec les élus locaux, qu'il avait d'ailleurs au terme du local. Je ne vais pas revenir sur la période de Gaulle, on va me traiter encore de réac. C'est de dire que finalement, dans une certaine mesure, on pourrait le faire. Le rendez-vous sera dans les urnes de toute façon, et vous êtes l'incarnation de ce que la France peut être. Je voulais juste le rappeler. Merci Roland Chanoui.
Je vais juste vous dire deux phrases que je répète à longueur de moi à mes élus. La première, c'est un élu, c'est juste un habitant qui a fait le choix d'assumer des responsabilités. Tant qu'on n'oublie pas cela, on ira toujours à la recherche d'un idéal. L'autre phrase qui me plaît énormément, que je tiens des lectures que j'ai eues d'Aimé Césaire, qui disait que la défense de l'intérêt général n'est pas la somme de la défense d'intérêts particuliers.
Magnifique. C'est très juste.
Merci.
Un grand merci.
Merci.
Merci, messieurs. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve dans quelques instants, toujours en direct du Salon de la MIF.
Le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 mai 2024 à Paris Expo, porte de Versailles, sur Radio Imo et Radio Territoria.